Lisa, le retour à l'instant sur Nova 12h38. Le retour également d'Emmanuel, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Votre invité aujourd'hui, on termine bien la semaine avec un écrivain, Bertrand Hillegems.
Et oui, aujourd'hui, un auteur, une maison d'édition, un livre sur Nova FM, Bertrand Hillegems. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
C'est un livre tout à fait atypique que vous venez de publier, que vous allez présenter demain matin au lecteur dans une séance de dédicace à la librairie de Près, maison de la presse à Châlons.
Oui.
Tout à fait atypique, vous êtes d'accord?
Tout à fait.
On va en parler, on va...
C'est signe que vous l'avez lu, c'est bien, merci.
J'ai lu effectivement, vous l'avez gentiment apporté la semaine dernière, je vous en remercie. On va évoquer La Commère, voilà, c'est le nom du livre, c'est le nom d'une première nouvelle. Mais avant d'en parler, je vous propose de vous présenter, je vous découvre, voilà, auteur aux multiples facettes, multiples passions, ancien journaliste. Vous êtes né à Nantes, la Vendée vient un peu plus tard, mais c'est quand même une grande partie de votre vie.
Oui, ça a été toute ma vie professionnelle. Dès que je suis sorti des études de la fac à Nantes, j'étais envoyé comme journaliste en Vendée. Voilà.
En Vendée, donc vous avez écrit pendant des années dans Presse Océan,
à Presse Océan, voilà, oui. Et j'ai même travaillé à la rédaction de Chaland aux alentours des années 76. À l'époque d'une très très grande sécheresse également.
Ah oui.
L'été 76
ah oui,
avait été redoutable.
76. Bien sûr, ouais. On s'en souvient de cette canicule. Enfin, on s'en souvient. Oui. J'étais toute petite, mais donc vous avez vécu ça effectivement ici, mémoire. Et dans d'autres villes, voilà, vous avez travaillé essentiellement dans quelle ville?
Les Herbiers, les Sables de l'Aune et principalement La Roche-sur-Yon.
Et on vous retrouve aujourd'hui donc avec un livre, mais vous êtes arrivé en Vendée adulte, c'est à Nantes que vous grandissez, dans une famille où le livre a tenu une très grande place, où l'écrit, le papier a tenu une grande place.
Oui, mes grands-parents étaient imprimeurs, une imprimerie de ville, rue de la Pelleterie à Nantes, et nous habitions au-dessus de l'imprimerie, voilà. Donc j'ai été bercé par le bruit des machines, l'odeur des papiers, j'allais jouer dans l'imprimerie au grand désespoir de mon grand-père. Je montais sur les rames de papier. Autrefois, les imprimeurs avaient énormément... Mes grands-parents avaient créé leur imprimerie avant-guerre, dans les années 30. Donc, ils ont subi la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec l'impossibilité d'avoir du papier. Lorsque la guerre s'est terminée, mes grands-parents ont fait du stock de papier. Voilà, c'était en souvenir de l'absence de papier pendant la guerre, de la même manière qu'il y avait dans la cour de la maison un tas de charbon, parce que pendant la guerre, il n'y avait pas trop de charbon non plus.
Voilà, on imagine en
une
tout
économie
cas,
de guerre.
Voilà. Le papier, l'odeur effectivement de l'imprimerie, votre grand-père très grand lecteur. Vos parents, votre papa était patron marinier, je découvre ça, d'origine belge, mais installé à Nantes dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, papa est venu... La famille de papa a fui la Belgique au moment de l'invasion belge par les troupes allemandes en 40. Et puis après, ça s'est calmé. Bon, tout le nord de l'Europe était occupé par les troupes allemandes. Et la famille est retournée en Belgique. Et papa est revenu en 45 à Nantes, en raison de ses capacités professionnelles, il travaillait au déblaiement des épaves coulées à Nantes, en Loire. Voilà. Donc il y avait énormément de bateaux de commerce, des cargos qui étaient coulés en Loire. Et donc il fallait plonger. Papa était plongeur, découper les bateaux, les remonter, etc.
Incroyable,
pour dégager la Loire.
Après, ensuite, il est devenu patron marinier.
Voilà.
Et donc, un papa d'origine belge, d'où le nom Hillegems.
Oui, et j'ai également la double nationalité. Voilà.
Franco-belge. Alors, l'écrit tient une grande place dans votre vie. Vous en avez fait un métier, le verbe. Vous devenez journaliste, donc c'était une vocation.
Alors, je ne sais pas si c'était une vocation, c'est parce que lorsque j'évoque mon entrée dans le journalisme, c'est toujours pittoresque, puisque d'abord je n'ai pas fait d'école de journalisme. Aujourd'hui c'est indispensable, à moins d'avoir un nom quelque part, dans un métier particulier. Mais donc moi j'ai fait des études universitaires et je suis rentré dans le journalisme à la suite d'un abandon de traverser de l'Atlantique à la voile. Voilà.
Votre abandon.
Oui, c'était bon, la grande époque de Tabarly.
Oui.
Aujourd'hui, tout le monde traverse l'Atlantique à la voile, même avec une baignoire ou voilà, chose comme presque.
Tout le monde, non.
Et allez, bon, dans les années donc 70, 75, c'était pas fréquent. Et voilà, donc avec des copains, on devait traverser l'Atlantique à la voile. Je devais fournir à Presse Océan à Nantes des séries de reportages lors de nos escales à Madère, etc. Et puis on a abandonné parce que le bateau n'était pas fiable. Et puis le Presse Océan m'a dit, bah, écoutez, en fonction de vos qualités universitaires, nous avons besoin d'un journaliste à La Roche-sur-Yon.
Et c'est parti. Et voilà. Et vous, voilà, en Vendée. Mais c'est intéressant tout ça parce que voilà, cette histoire familiale, personnelle, ses passions, voilà, on sent hein, la voile, le oui. voyage. Ça va aussi un petit peu expliquer la suite. Vous allez alors par ailleurs animer des ateliers d'écriture aussi. Voilà, l'écrit, c'est quelque chose qui vous anime. Et on va voir petit à petit, vous allez aussi devenir écrivain. Une petite parenthèse, journaliste de presse écrite, on vous retrouve aussi à la radio pendant quelques années en Vendée.
Ah oui, j'ai participé à La Roche à des émissions hebdomadaires régulières pendant 10 ans à peu près, voilà,
sur RCF.
Sur RCF. Voilà.
Sur RCF. Oui, oui. Et le thème de vos émissions ?
Ben, c'était des billets d'originalité justement que je choisissais. J'étais entièrement libre des sujets que je traitais. Je les terminais par une note musicale, voilà, ce qui me créait beaucoup de soucis parce que je n'ai pas une culture musicale contemporaine considérable et j'ai été obligé de me creuser la tête.
En tout cas, biais d'originalité, ça ne me surprend pas. Durant toutes ces années, le livre, la lecture, l'écriture ne vous quittent pas. Vous allez écrire votre premier roman publié en 1998. Il s'appelle L'écharpe rouge, un peu beaucoup autobiographique.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un petit garçon nantais dont le papa travaille dans une imprimerie, mais c'est l'histoire de l'éveil à une sensibilité artistique. Il va devenir comédien en souvenir des émotions ressenties enfant en voyant le théâtre de Guignol à Nantes. Il y avait un théâtre de Guignol à Nantes dans une cabane en bois derrière la cathédrale Saint-Pierre à Nantes, et j'ai été bercé, c'était le jeudi à l'époque, par les séances de Guignol. C'était extraordinaire.
Moi aussi, plutôt vers la porte maillot. Et le théâtre, je voulais venir sur ce sujet un peu plus tard, mais ça aussi, c'est une grande passion pour vous, le théâtre.
Alors, j'ai fait du théâtre, oui. J'ai fait du théâtre à Nantes, dans une troupe que j'ai créée avec des amis. On est même allé jouer en Angleterre. On a joué au festival à Salerten et à Saint-Jean-de-Mont. Dans une année où il y avait un festival des églises romanes, et on a joué dans l'église romane de Salerten.
Merveilleux. Oui. Comment s'appelait votre troupe ?
L'Apostrophe.
L'Apostrophe.
Le théâtre de l'Apostrophe.
Et on va voir que l'écriture aussi hein, de théâtre vous inspire. Alors, vous avez écrit donc un roman, d'autres livres depuis, et puis vous êtes devenu aussi éditeur il y a une dizaine d'années. Vous avez créé votre propre maison d'édition en Vendée, ce sont les Chantuseries, une maison d'édition qu'on connaît un petit peu aussi, puisque vous venez tous les ans maintenant depuis la création des Chantuseries, ou même avant d'ailleurs, au salon du livre de Saint-Gervais.
Oui, je suis un abonné.
Et vous étiez présent là au printemps.
Oui, j'étais là avec des auteurs, voilà, on avait un stand des éditions Les Chantuseries. Voilà, oui.
Alors d'où vient l'idée et la volonté de créer une maison d'édition ?
Eh bien, ça vient de l'atelier d'écriture que j'ai animé pendant 3 ans à la bibliothèque municipale du Poiré-sur-Vie où j'habite. Et donc j'ai fait travailler mes élèves, enfin c'était des grands élèves, ils avaient entre 15 et 75 ans, ils étaient 14, et la deuxième année je les ai fait travailler sur le thème du roman policier. J'ai tourné en rond au fil des séances un travail sur les caractères, sur les ambiances, voilà. Et puis je leur ai proposé, après tout ça, après quelques séances, d'écrire à 14 un roman policier. Ça a été l'enthousiasme général. Donc on a tout mis en place, le temps de l'écriture, la date, l'année, les caractères, tout le fil de l'histoire. Et puis quand le bouquin a été écrit, toujours en atelier, eh bien j'ai dit qu'est-ce qu'on en fait ?
On en fait
un bouquin, et pour le sortir, je crée une maison d'édition. Et ça avait été rendu possible, l'idée m'en était venue en janvier 2009, avec l'adoption du statut des auto-entrepreneurs. Et c'était le 1er janvier 2009, la création de ce statut, qui m'avait paru intéressant, parce que j'ai horreur de la paperasse. Je me dis, tiens, là, il y en aura moins. Et c'est parti comme ça, et ça fait 13 ans que ça dure.
Et oui, et ça fait 13 ans que vous publiez des auteurs, des livres très variés. On a un beau panel hein, quand même depuis 13 ans.
Oui, 45 livres. Voilà.
C'est beaucoup,
ouais.
C'est même énorme. Oui. Dont l'un des derniers, il me semble, hein, La Commère. On va vous retrouver avec ce livre, une nouvelle, des dialogues. La Commère, un livre atypique et décoiffant, c'est un terme que vous avez utilisé, on va en parler dans 3 minutes.
Après le tout dernier Stromae sur Neuve, Mon Amour.
Y a d'abord une Natacha. Mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura. Et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi. Et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. C'est pas ce que tu crois. Je sais ça paraît bizarre. Non c'est pas ma faute à moi. Mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois. C'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas. De toute façon je sais qu'au fond de toi tu les aimes bien les connards. Mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi. Et que je t'aimerai pour toujours.
Oui pour toujours.
Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi.
Stromae, ton nouveau titre, Mon Amour, il sera bientôt. C'est l'événement chez nous en Vendée, Saint-Malo-du-Bois, le festival de poupées. Dès demain, vous pourrez notamment gagner vos places pour différents artistes. Donc, très attendu à Poupées. Très attendu également le jeu via notre page Facebook. La suite avec vous et votre invité jusqu'à 13h, Bertrand Hillegems.
Et oui, Bertrand Hillegems, auteur de La Commère, publié donc dans sa maison d'édition, Les Chanteuseries. Vous serez demain matin à Chalon en dédicace à la librairie de Pré, Maison de la Presse. Alors, comment vous présentez votre livre quand vous rencontrez des lecteurs.
Ce sera la première fois que je rencontrerai des lecteurs parce que le livre est sorti il y a quelques mois et je n'ai encore pas eu l'occasion d'en parler directement. Je suis invité donc à la Maison de la Presse et je les remercie de m'avoir fait cette ouverture et je suis un peu embarrassé parce que c'est un livre pour moi important parce qu'il me révèle. À, à, tra- travers la variété de ses nouvelles, à travers le pittoresque des scènes de théâtre qui suivent, eh bien, quand on sait lire à travers les lignes, c'est le caractère du bonhomme qui est derrière, qui est caché. Voilà.
C'est le livre le plus personnel que vous avez écrit.
Ah, ça c'était absolument, oui.
Oui. Alors, justement, d'entrée de jeu, vous remerciez une série d'auteurs de référence qui vous ont marqué, influencé, de grands noms. Parmi eux, Raymond Devos, c'est manifestement, vous partagez le goût des mots et de l'absurde.
Oui. J'aime. Alors, ça naît à partir d'une image, et puis, j'allais dire que ça débloque. C'est-à-dire que je passe d'image en image en les associant et en créant des nouveaux mondes comme ça. J'avais été extrêmement amusé, fasciné par Le sens de la vie, le film des Monty Python, qui est génial parce que on n'y retrouve que des choses incroyables. Voilà. C'est de l'incroyable qui s'enfile en chapelet en créant de la fantaisie et énormément d'humour et de la profondeur. Voilà. Il y a de la profondeur derrière tout ça.
Ça va résumer aussi un petit peu votre quête dans la commère.
Oui, absolument. Voilà.
Vous les citez, je crois, les Monty Python.
Oui.
Vous ne le citez pas, et moi j'ai pensé à Ionesco en vous lisant.
Merci.
Voilà, imaginez, les Monty Python, Ionesco, Raymond Devos et bien d'autres. Le premier texte, voilà, il y a plusieurs textes dans La Commère, c'est une nouvelle. Elle nous embarque dans un récit vraiment insolite avec un fil rouge, un voilier.
Oui, alors c'est une frégate.
Une frégate.
Une frégate du 18e. Dans mes lectures, j'ai été emballé par les récits des grands navigateurs du 18e comme Bougainville. Bougainville qui a fait donc le tour du monde en 3 ans sur une frégate qui s'appelait La Boudeuse. Et d'ailleurs, c'est le nom de La Boudeuse qui m'a donné l'idée d'imaginer ce bateau que j'appelle La Commère. Voilà, de La Boudeuse à La Commère. Et c'était des grandes expéditions scientifiques avec à bord des savants pour étudier la faune, la flore, pour cartographier les côtes. À l'époque, il n'y avait naturellement pas de satellite. Il fallait se débrouiller avec les engins optiques qu'ils savaient d'ailleurs très bien manier. Mais c'était des épopées fantastiques. Voilà. Et donc, ces bateaux, d'ailleurs, qui n'étaient pas manœuvrants, qui ne remontaient pas au vent, qui étaient très difficiles à manœuvrer, ça crée un climat merveilleux pour l'aventure.
Et justement, un mot sur la couverture, ce bateau majestueux, La Commère, La Commère qu'on retrouve.
Voilà.
À qui la doit-on ?
Eh bien, un jeune de 20 ans, Théo Lecomte, qui est graphiste. Et alors voilà, moi, au cœur de mon travail, je mets l'humain. Et il y a 2 ans, je reçois un coup de téléphone d'un gamin de 18-19 ans qui me dit, voilà, j'ai écrit un livre et puis je voudrais savoir si vous pouviez l'éditer. J'habite Moutier-les-Mauffets. Et il me dit, c'est un livre de contes pour enfants. Je lui dis, je ne fais pas de contes pour enfants, mais venez me voir, on va parler. Voilà. Il est venu. Et c'est un livre qu'il avait écrit, qu'il voulait auto-éditer et qu'il avait illustré. Et je lui dis, je lui ai acheté son livre, que j'ai offert à une de mes petites filles. Et je lui dis, voilà, bon, votre livre ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est votre qualité de dessinateur. Parce que je suis en train de me creuser la tête pour un bouquin que je vais éditer et j'ai besoin d'une locomotive à vapeur qui traverse une carte de France. J'ai jamais dessiné de locomotive. Bon, eh ben allez-y. Et donc, il a fait cette couverture. Le bouquin est d'accord. Sorti. Et puis, il a très, très bien marché. Hein. C'est Sauver mon train. C'est une épopée réelle qui s'est déroulée en 40 en France. Voilà. Et puis, donc, pour La Commère, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me dessines une frégate. Il m'a dit, j'ai jamais dessiné de frégate.
Et
j'ai dit, vas-y. Et voilà. Et vous avez vu ce bateau.
Magnifique.
Il est absolument magnifique.
Il a 20 ans.
Magnifique.
Bravo à Théo.
Ouais.
Donc on retrouve un mot aussi sur la 4e de couverture, parce que moi j'ai savouré avec vous, vous avez partagé quelques réactions à votre livre, vous avez pas mal de références.
J'ai beaucoup de relations. Hein.
Copernic qui vous dit finalement il est d'accord avec moi, tout en rond. Descartes aussi, étrange discours que cette méthode moderne. Jules Verne, salut, un voyage extraordinaire évidemment. Alors je ne vais pas tous les citer, moi j'adore aussi le dernier, Pierre Dac. Dac, voilà ce que nous dit Pierre Dac.
Voilà.
Voilà, on est dans l'absurdie, mais on est dans le, dans des références aussi de grands noms.
Voilà. Alors, c'est parce que dans ce livre, comme je vous disais tout à l'heure, je me livre et donc je ne me refuse rien.
Enfin, il faut lire entre les lignes, hein, on va le dire. Voilà. Il faut lire entre les lignes pour vous trouver. Hein. qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans la commère, voilà, sur cette première nouvelle?
D'abord, j'ai voulu raconter qu'il faut aller au bout de ses rêves. C'est un petit garçon qui imagine un bateau en papier qui va mettre à l'eau, qui va appeler la commère naturellement, et ce bateau va couler. Et on va se moquer de lui, son instituteur va se moquer de lui, et voilà. Mais il va aller au bout de ses rêves parce qu'il va sortir de lui-même et il va courir jusqu'à Gibraltar à l'heure de la récré. Bon, il faut le faire, hein, il faut l'imaginer.
Oui.
Et là, à Gibraltar, il va voir passer la commère, cette frégate qui file vers l'Orient. Voilà.
C'est beau, Bertrand, ce que vous nous partagez avec nous.
L'important, c'est d'aller au bout de ses rêves.
On est très émus à vous écouter. C'est un très très beau message que vous partagez.
Et à travers mon travail d'éditeur, c'est aussi ce que je vis. Quoi.
Vous voilà. Allez au bout de vos rêves et au bout de rêves de tous les auteurs que vous éditez, Bertrand Hillegames. On est très émus à vous écouter. On découvre ce livre avec vous, avec une deuxième partie. Ce sont des dialogues, des scènes de théâtre. Le théâtre qui est aussi une passion ancienne, vous l'avez livré avec nous. Il y a encore une vraie volonté de nous bousculer, nous, les lecteurs, les spectateurs.
Oui, j'ai fait du théâtre et j'aime énormément j'aime énormément rire, voilà. C'est pour ça que j'ai mis en scène, ce sont des dialogues, donc deux personnages, A et B, qui, avec tout un ensemble de scénettes, de situations diverses et variées, vivent un fil rouge. Là encore, il y a un fil rouge parce que à travers ces A et B qui s'ignorent, qui s'envoient des choses trappes, qui se font des crocs en jambes au fil des scènes, on découvre une volonté de l'auteur d'imaginer une amitié entre A et B qui se cherchent finalement, voilà, dans une relation amicale, et c'est le secret de cette rencontre. Voilà.
Et quelle belle rencontre aujourd'hui sur Nova FM, celle de Bertrand Hillegames. Alors je rappelle, vous serez demain matin toute la matinée à Chalon avec La Commère et peut-être d'autres livres aussi. Je pense que voilà, c'est une belle rencontre à suivre à la Maison de la Presse, qu'on remercie aussi de nous avoir fait partager ce moment. Merci beaucoup, Bertrand Hillegames.
Merci, Emmanuel, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre.
Et moi aussi, complètement. On vous retrouve en podcast, hein, pour la réécouter.
Très vite, ouais.
Dans quelques secondes.
Merci, Bertrand, à bientôt. Sur notre antenne.
Avec plaisir.
Emmanuel, rendez-vous tout au long du week-end avec vos infos. Le bloc-neuf, il se passe plein de choses. Hein.
Beaucoup, là.
Tant mieux.
Ils sont
tant
très,
mieux.
Très longs, mes bloc-neuf.
Ah, bah oui, c'est une bonne nouvelle.
Ah, c'est une très bonne
nouvelle. On va sortir, on va bouger.
Et on se retrouve lundi avec la Chénov.
À 12h35.
Société d'histoire, voilà, et d'études Nord-Ouest Vendée qui va faire parler un petit peu d'elle dans les jours à venir.
Merci. Le retour de l'info tout de suite, la musique. Enfin, après les infos, la musique, Vanessa Carton, Angèle et Lizzo. Et à tout à l'heure, évidemment, sur Neuve pour continuer cette fin de semaine avec les infos de la bonne nouvelle.